avec Sunwa Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, nous vous proposons de nous arrêter aujourd'hui encore sur la situation de celles et de ceux qui, depuis plus d'un an, ne comptent pas leurs heures au service de la santé de tous. Les soignants, personnels hospitaliers confrontés aux risques infectieux, à la réorganisation des soins, à la brutalité de l'épidémie, pression inédite, pour celles et ceux qui, derrière leurs masques, leurs visières, accueillent, accompagnent et veillent au bien-être des centaines de milliers de patients qui sont passés au cours des 14 derniers mois dans les différents services des hôpitaux français. Hier, la barre des 30 000 malades Covid-19 hospitalisés en France a été dépassée. Les déprogrammations d'activités dites non urgentes se multiplient. Alors, qu'est-ce que cette crise a changé pour les soignants, pour l'hôpital? En juillet, la concertation du Ségur de la santé débouchait sur un certain nombre d'annonces. En quoi ces accords ont-ils amélioré le quotidien des personnels? Quels besoins aujourd'hui n'ont pas été comblés? Des mesures ponctuelles peuvent-elles suffire ou faut-il un changement de logique, de dimension, de paradigme? Charge de travail, frustration, quelles sont les attentes des soignants? Comment faire naître de nouvelles vocations? Peut-on encore raisonner en termes de rentabilité à l'hôpital public et est-ce qu'il est trop tôt pour se lancer dans un nouveau chantier? Faut-il déjà réfléchir au jour d'après, comprendre l'hôpital d'aujourd'hui pour préparer celui de demain? Et demain, on l'espère tous, parler de la pandémie au passé, espoir commun qui n'est pas encore d'actualité. Entendre et comprendre les professionnels de santé qui n'avaient pas attendu la crise sanitaire pour faire des propositions. En studio avec nous, professeur André Grimaldi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière. On peut dire grand défenseur de l'hôpital public, co-auteur avec 27 experts et professionnels de santé du livre « Santé urgence » paru chez Odile Jacob, état des lieux et propositions pour refonder l'hôpital. Crise sanitaire, tension extrême dans certains services comme le vôtre. Professeur Stéphane Gaudry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Médecins, aides-soignants, infirmières mobilisés, parfois même épuisés. Nous donnerons tout à l'heure la parole à Sophie Michelet, infirmière au CHU de Grenoble et membre du collectif Interhôpitaux. En fin d'émission, on va parler de la réforme des études de médecine qui avait débouché, entre autres, sur la fin du numerus clausus pour théoriquement former davantage d'étudiants et donc de futurs médecins. Réforme inaboutie de l'avis du docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre, syndicat. On lui donnera la parole tout à l'heure.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Stéphane Gaudry, un service de réanimation dans un hôpital de Seine-Saint-Denis, Avicenne, Bobigny. Où en est votre service? Où en sont vos équipes?
Écoutez, là actuellement, puisque nous faisons actuellement face à une nouvelle vague très importante d'arrivées de malades en réanimation depuis plusieurs semaines, nos services de réanimation se sont étendus progressivement depuis début février pour atteindre actuellement un nombre de lits qui est équivalent au pic de la première vague, c'est-à-dire avec à peu près 30 lits de réanimation gérés par notre équipe, plus 8 lits de réanimation gérés par l'équipe d'anesthésie réanimation de l'hôpital. Et donc, ce qui fait 38 lits. Et on a aussi 8 lits à l'hôpital Jean Verdier qui nous aide à faire de la réanimation pour les patients non-Covid. Donc, vous voyez beaucoup, beaucoup de lits de réanimation et beaucoup, beaucoup de malades chaque jour qui arrivent dans ce service.
Et il faut l'expliquer à chaque fois aux auditeurs, quand on dit des lits, ça veut dire aussi les soignants qui sont là pour prendre en charge les patients qui parfois nécessitent des actes particulièrement lourds. Aujourd'hui, on va dire pour un lit de réa chez vous, combien d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins?
Alors, pour la réanimation, on a 2 infirmières pour 5 patients de réanimation, parce que les patients de réanimation, en effet, sont des patients très très lourds. Il nécessite des soins parfois pendant plusieurs heures. On doit être dans la chambre pour s'en occuper et un aide-soignant, une aide-soignante pour 4 à 5 malades. Et par-dessus tout ça, le staff médical, il y a un interne qui s'occupe de 6 à 8 malades et un médecin senior qui s'occupe également de 6 à 8 malades. Donc vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes qui s'occupent des patients. Donc le problème majeur, et vous l'avez bien souligné, ce ne sont pas les lits en tant que tels, ni même les respirateurs ou les médicaments. Le problème majeur pour avoir une activité de réanimation très intense, c'est les ressources humaines, et c'est ça la plus grande difficulté. Et ce qui est souvent indiqué comme étant simple, il suffisait d'ouvrir des lits de réanimation, ben non, c'est pas simple du tout, puisque pour pouvoir ouvrir des lits de réanimation, il faut avoir du personnel, et surtout il faut avoir du personnel formé. Parce que si vous mettez du personnel non formé dans des lits de réanimation, eh bien, vous dégradez la qualité des soins apportés aux malades.
Est-ce que vous avez d'une certaine manière, professeur Stéphane Gaudry, l'impression d'être venu un an en arrière, où beaucoup de choses ont changé? Il y a le nombre de patients qui ressemble à la situation précédente. Est-ce que le profil de ces patients est le même? Et un autre élément essentiel, l'état d'esprit de vos équipes. On imagine qu'après un an où il y a eu peu de vacances, peu de répit, les gens sont très, très fatigués.
Alors, concernant les patients, en effet, le profil de la maladie est la même. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est que cet épisode 2021 voit apparaître une grande quantité de diffusion virale au sein de la population, une population jeune qui est celle des 20-60 ans, une population qui ne s'est pas confinée, qui a été au travail ces dernières semaines, et donc cette population est grandement victime de la crise actuelle et de la pandémie actuelle, et donc dans les services de réanimation de l'Île-de-France, on trouve des malades plus jeunes que l'année dernière, avec, vous voyez, hier par exemple, on a fait 3 entrées dans le service. On a réussi à faire un peu de lits disponibles et très vite ils ont été pris. Et les 3 entrées, c'était 55 ans, 33 ans et 24 ans. Et ça, c'est tous les jours. Donc, vous voyez, des patients qui sont relativement jeunes avec très peu de comorbidité. Mmh. Donc, ça, c'est le profil des malades actuels. Et bien entendu, ça me permet de faire la transition. Ça joue beaucoup sur le moral des troupes, je dirais. Que ça fait maintenant un an qu'on est dans cette crise avec des activités plus importantes et puis parfois un peu moins importantes, notamment cet été, mais des équipes qui sont très très fatiguées, à la fois parce que, vous savez, voir des drames tous les jours, même si ça fait partie de notre métier, on va dire que là, c'est quand même en quantité et en nombre.
L'intensité n'est pas la même. Oui.
Voilà, l'intensité est très importante. Et donc, on a des équipes qui sont fatiguées. Qui sont fatiguées physiquement parce qu'il y a eu peu de vacances et qui sont surtout fatiguées psychologiquement parce que ces derniers mois ont été très très durs. Et donc, un certain nombre de personnes sont, on va dire, on peut qualifier de limite sur le plan psychologique pour supporter encore cet effort que nous devons faire, puisque si nous ne le faisons pas, malheureusement, il n'y aura pas assez de lits de réanimation pour s'occuper des malades.
Vous disiez ça, justement. On a trouvé 3 lits. Il y a eu pas mal de tribunes, d'articles dans la presse pour dire « Attention, si ça continue, on va devoir... » Les gens disaient, le terme est affreux, utiliser le mot « trier ». Il y en a qui disent « prioriser ». Est-ce que pour vous, ce débat, il existe? Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit, en fait, aujourd'hui être oublié? Est-ce qu'aujourd'hui, l'hôpital fait face quantitativement, qualitativement, de manière satisfaisante à cette pression de la pandémie?
Écoutez, on a quand même de quoi, en tout cas pour les soignants et pour l'hôpital, être fier de ce qu'on fait. Et la raison pour laquelle certaines personnes ont alerté, c'est pour justement pouvoir garder le niveau de qualité de soins qu'on apporte à la population. Et pour pouvoir garder ce niveau de qualité, eh bien, il fallait absolument qu'on réduise les arrivées en réanimation. Et pour ce faire, il faut réduire la diffusion de ce virus. C'est pour ça, probablement, qu'un certain nombre d'entre nous avaient demandé des mesures assez fortes pour pouvoir justement faire face dans la même exigence de qualité de soins. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle de tri ou de priorisation, les choses ont déjà commencé, puisqu'à partir du moment où vous supprimez ou vous retardez un certain nombre de prises en charge, déprogrammez à 60% de votre activité, eh bien vous avez un certain nombre de patients qui vont avoir un retard à la prise en charge de leur pathologie. Alors, ce sont des pathologies qui sont pas trop graves, mais parfois ce sont des pathologies qui peuvent éventuellement mener à un pronostic difficile. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple assez simple. Si vous devez faire une coloscopie à la recherche d'un cancer, eh bien, si cette coloscopie est retardée, potentiellement, le diagnostic peut être retardé et ça peut avoir un impact sur votre santé.
On parle de report de chance ou de retard de chance. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Alerter n'est pas forcément exagéré. En tout cas, ceux qui ont dit « attention, on risque d'être dépassé par cette vague » ont été entendus tardivement par le président de la République. Professeur André Grimaldi, il y a des échanges parfois animés, y compris dans le corps médical. C'est quelque chose de réel. Certains dramatiseraient. Attention à ne pas effrayer la population. Mais en même temps, il faut réagir. On entend le professeur Gaudry. Il y a eu vraiment une émulation, une stimulation extraordinaire il y a un an, au printemps dernier, lors de la première vague. Un an après, est-ce qu'on est retourné à la case départ ?
Non, on n'est pas retourné à la case départ, c'est pire. Il y a une espèce de fatigue générale, d'usure, les gens n'en peuvent plus, parce qu'on a été capable de gérer la première vague alors qu'on est comme on pouvait. Hein, on a fait front à l'assaut. La population était derrière les soignants, on manquait de tout. Et puis, il y a eu la deuxième vague. Alors que là, on a mal géré, on était en retard encore. Et puis après, on a dit, on va rester à un plateau élevé, de 25 000 cas tous les jours. Et puis, 2 000, 3 000 personnes en réanimation. Et puis, les variants anglais ont fait tout exploser. Et là, on est une espèce de choix. La population ne supporte plus. Le président de la République suit la population. Et en gros, le retard au confinement de la troisième vague, il est fondamentalement lié au fait que le président dit « regarde la population ». Il dit « la population ne supportera pas, donc tant pis ». Donc quelque part, les soignants ont le sentiment qu'ils sont les sacrifiés de l'affaire. C'est fini. Vous avez eu la première vague. La deuxième vague, il a fallu maintenir l'économie. Maintenant, c'est la société qui compte. Il y a trop de dépression, les gens ne supportent plus. Donc, on ne peut plus prendre de décisions trop contraignantes.
Mais quand on entend ça, on a l'impression qu'on considère qu'on met l'hôpital à l'extérieur de la société.
Absolument.
Pourtant, il est au centre de la société.
Absolument. C'est-à-dire que la société s'est mobilisée autour de ses soignants, autour de son hôpital, avec un sentiment fort lors de la première vague. Et comme on n'a pas été capable, parce que c'est ça qu'il faut dire, on n'a pas été capable collectivement de faire face à la crise par la seule stratégie qui s'appelle tester, tracer, isoler. On n'a pas été... C'est ça la stratégie. Alors, comme on peut pas isoler, c'est-à-dire confiner individuellement, on a été incapable de le faire, eh ben, on se trouve avec la seule alternative qui n'est pas une stratégie, qui s'appelle confiner collectivement. Les gens n'en peuvent plus, disent non, et donc on attend la dernière limite. Alors, on a inventé ce slogan, chaque jour non confiné est un jour de gagné. C'est un slogan très ambivalent, parce que ça veut dire pour les gens qui seront morts, c'est pas un jour de gagné. Pour les gens en réanimation, c'est pas un jour de gagné. Pour les soignants, c'est pas un jour de gagné. Et pour ceux qui disent j'en peux plus de ce confinement, oui, ils disent je suis soulagé. Mais enfin,
pour qui
le bilan. Donc voilà. Donc je dirais que la première vague, elle a été autour des soignants. La deuxième, elle a été maintenant l'économie. Et la troisième, c'est suivons la population en donnant l'impression qu'on prend des décisions. Mais enfin, les décisions ont été prises tardivement. Très tardivement, trop tardivement, et maintenant les hôpitaux sont dans une situation très limite.
Et les chiffres sont là, 5 500 malades pris en charge en réanimation. Le président de la République qui a annoncé la semaine dernière des renforts supplémentaires en réa. La PHP, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui organise des sessions de formation express en réa. Est-ce que cette initiative est bienvenue, professeur Stéphane Gaudry ? Est-ce que c'est finalement un pansement sur une jambe de bois ou c'est vraiment quelque chose qui vous soulage ?
Écoutez, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bien, parce qu'on a nous-mêmes mis en place ces formations à l'hôpital Avicenne et à l'université Sorbonne Paris-Nord dans le service de simulation en santé. On l'avait fait l'année dernière, dès les premiers jours de la crise, nous avions mis en place ce type de formation, nous l'avions refait lors de la deuxième vague et nous le refaisons à nouveau cette fois-ci. Donc oui, c'est très bien, ça nous permet un peu de muscler les équipes, mais il ne faut pas oublier, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous avons besoin de personnel très bien formé pour s'occuper des malades. Ces malades-là, je vais juste m'arrêter une petite seconde sur les chiffres. Il ne faut pas s'arrêter sur la photographie des 5000 malades en réanimation. Parce que ça, c'est une photographie, ça ne vous montre pas le flux. Le flux, c'est la semaine dernière, en 7 jours, en France, 3000 malades sont arrivés en réanimation. Sur ces 3000 malades, 1000 vont mourir, 1000 auront des séquelles dans un an. Et 1000 seulement sortiront sans séquelles de la réanimation. Et chaque semaine, vous avez ces 3000 malades. Donc, vous faites l'addition. 10 semaines à ce niveau-là, si on se satisfait d'avoir pas coupé le robinet, le prix à payer, c'est ce que je viens de vous dire.
Mais professeur Gaudry, justement, quand vous allez dans le fond de l'affaire, dans le fond de la situation de ces patients, comment faire passer ce message, puisque précisément, même s'il y a des reportages dans les hôpitaux, même si on voit des familles en deuil, on a l'impression que les gens n'ont pas conscience du fardeau qui est en train de se construire, parce qu'il va y avoir toutes ces personnes à traiter, tous ces traumatismes à gérer. Il y a vous, en réa, la tête sous l'eau, mais il y a toute la société aussi qui est... On dit, on ne veut pas, finalement, professeur Grimaldi, fâcher la société, mais la société, elle est en train d'être meurtrie, mais profondément.
Oui, on a choisi une stratégie qui n'a jamais existé dans l'histoire des épidémies et qui s'avère intenable compte tenu des mutations. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie initiale qui pouvait être on laisse circuler le virus, ce qu'ont essayé les Anglais, les Suédois, et c'est un échec. Bon, et le Brésil, n'en parlons pas. L'autre stratégie, c'est celle qu'ont fait les Asiatiques. C'est un confinement dur et ensuite, on ne veut pas laisser circuler le virus.
On verrouille.
Donc là, on verrouille. Bon, ça suppose, si on n'est pas une dictature, une adhésion forte de la population, une clarté que ce soit expliqué. Et nous, on a inventé, lors du deuxième confinement, c'est-à-dire tardivement, on a dit, ben, nous, c'est vivre avec le virus. Donc, on le laisse circuler. Et alors, on a changé les mots. Comme on n'arrivait pas à isoler, on dit plus isoler, on dit protéger. Comme on n'arrive pas à contrôler la circulation du virus, on dit qu'on contrôle l'épidémie tant que les réanimations ne sont pas dans la situation où elles se trouvent. Donc on a complètement changé de langage pour s'accommoder. Et alors les gens, on a pris une série de demi-mesures qui à chaque fois sont discutées. Pourquoi on ouvre le BHV mais pas un théâtre, etc. Bon, donc ça use, ces demi-mesures usent beaucoup plus que des mesures strictes et ensuite une mobilisation pour dire on peut vivre quasiment normalement, mais en traquant le virus.
Mais professeur Grimaldi,
est-ce qu'elle était applicable ?
L'opposition scientifique, on va dire grand public, même si encore les scientifiques font partie aussi du grand public, cette forme de clivage aussi, c'est quelque chose qu'il faut dépasser aujourd'hui, puisqu'on a vu le conseil scientifique faisait des propositions au gouvernement. Dans un premier temps, c'était d'accord. Dans un deuxième temps, c'était pas d'accord. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il y a une réconciliation aussi ? Parce que dans ce service public, il faut avancer ensemble.
Bah, maintenant, on est un peu trop tard, on est au bout. Maintenant, on n'a plus qu'une solution, vaccination, 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 vaccination. Et puis, essayer de tenir autant qu'on peut les réa grâce à la mobilisation de nos collègues, ce que vient de dire tout à l'heure le docteur Gaudric. On compte sur eux et eux ont le sentiment d'être un peu abandonnés dans cette histoire quand même.
D'autant plus qu'il y a certains territoires, comme celui où vous exercez, professeur Gaudry, la Seine-Saint-Denis, qui est concernée à double titre, vulnérabilité plus grande des habitants et puis dotation moins importante en termes de système de soins. Là, on va en profondeur sur ce qu'est aujourd'hui l'organisation de la santé en France. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, même un an après la première vague, votre troisième vague là, de faire les frais d'une certaine manière, d'une certaine forme de délaissement aussi de certaines populations ?
Bien entendu, la Seine-Saint-Denis, c'est un département en grande difficulté qui a été, je le dis clairement, abandonné depuis des décennies, et en particulier sur le plan de la santé publique. De toute façon, c'est très simple, vous regardez, la Seine-Saint-Denis, c'est 8 fois plus de diabète que dans certains autres départements français. Donc ça montre bien, puisque c'est une maladie qui parfois est liée, en particulier, et mon collègue le sait bien, à l'obésité, à l'accès à la médecine préventive, etc., etc., à l'accès au sport. Et donc, vous avez en Seine-Saint-Denis une population qui n'a pas du tout accès à la médecine préventive, qui n'a pas du tout accès à la base de la santé, si vous voulez. Et donc vous avez des populations qui sont à haut risque de développer des maladies graves, qui d'ailleurs ne sont pas que des maladies infectieuses, mais là, en l'occurrence, cette maladie, le Covid, est bien présente les facteurs de risque de développer des maladies graves, qui sont à peu près les mêmes que ceux des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, l'obésité. Et donc vous avez une population fragilisée qui est pleinement victime de cette pandémie dans une dans un département qui a été abandonné sur le plan de la santé publique.
Abandonné dès l'enfance, parce qu'on a fait une émission sur la médecine scolaire qui est complètement aussi à l'abandon dans ce département de la Seine-Saint-Denis, professeur André Grimaldi.
Ben oui, c'est-à-dire que ces épidémies infectieuses en général et celle-là en particulier, elles ont une composante sociale et elles aggravent les inégalités sociales. Alors là, on retrouve les mêmes inégalités pour les maladies chroniques. Hein, on est, notre système de santé n'est pas bon pour les maladies chroniques. Parce que nous ne sommes pas bons pour la prévention, nous ne sommes pas bons pour la promotion de la santé publique. Donc, il y a un gradient social pour l'obésité, pour le diabète, pour l'hypertension. Et c'est les mêmes personnes qui vont être victimes du Covid. En plus, les conditions sociales font qu'elles ne peuvent pas télétravailler. Elles sont en premier de corvée. Elles prennent les transports en commun. Les logements sont petits. On ne peut pas s'isoler. Dans des logements où il y a 8 personnes, donc il faudrait des hôtels dédiés. C'est toute une organisation de la société qu'on n'a pas mis vraiment en place en dehors de discours. Hein. On a beaucoup appelé à la responsabilité individuelle.
On a parlé
mais
de solidarité.
Mais si vous êtes humide dans un petit appartement, comment vous faites pour vous isoler? Bon, il n'y a aucun moyen qui ont été mis à disposition. Donc là, les inégalités sociales explosent et sont aggravées par le Covid. Alors certains disent que ce n'est pas une épidémie, c'est une syndémie. Pour dire, c'est au fond la conjonction de l'épidémie des maladies chroniques et de l'épidémie de maladies infectieuses.
Avec un contexte social qui joue pour beaucoup, vous disiez tout à l'heure, professeur Grimaldi, aujourd'hui, face à une telle situation, la solution, c'est vacciner, vacciner, vacciner. Une question qui se pose, y compris dans le corps médical, professeur Gaudry, cette sortie de crise qui repose donc sur ces fameuses piqûres, hein, on les attend pour certains, enfin, nous qui ne sommes pas des soignants, quel est le regard que vous portez sur la stratégie? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle en service de réanimation?
Bien sûr, c'est quelque chose dont on parle. On parle de beaucoup de choses dans les services de réanimation, mais bien entendu, on parle de l'actualité, en particulier de l'actualité sur la vaccination. On sait très bien que c'est la sortie de crise sera faite grâce à la vaccination. C'est ça qui va nous permettre de sortir de cette crise-là à tous les points de vue, c'est-à-dire à l'hôpital, en ville, ça va nous permettre de revivre, etc. Le problème, c'est que le timing est difficile à tenir. On aimerait bien vacciner 80% de la population en un mois, mais ça n'est pas possible. Et donc, en attendant qu'on fait d'autres pays, et bien, ils ont combiné une vaccination très très rapide, le plus rapide possible, avec un confinement très dur. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en faisant ça, vous faites diminuer le taux de contamination en ville en dessous d'un certain seuil, comme le seuil de 5000 qui avait été proposé par le président Macron il y a quelques mois, malheureusement que nous n'avons jamais atteint. Et avec ça, vous associez une vaccination très intense. Et avec ça, vous gagnez la bataille, comme l'ont fait les Israéliens, par exemple.
Mais là, on n'en est pas encore là en France. Professeur Stéphane Gaudry, on a brossé un tableau assez sombre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré tout, j'aimerais qu'on aille un petit peu vers un petit poil de lumière. Pour soulager vos équipes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semble nécessaire?
Ah, écoutez, là, encore une fois, nous, quand on a alerté, quand on a dit qu'il était temps de prendre des décisions, c'était pas pour nous soulager, nous, les équipes. La priorité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de soulager les patients et leurs familles. Parce que nous, on est les premiers témoins de la catastrophe sanitaire, et la catastrophe sanitaire familiale, hein, vous avez des services, un de mes collègues nous racontait récemment, qui travaille dans une réanimation juste à côté de chez nous, il y avait le père et la mère qui étaient décédés dans leur même service, à 2 semaines d'intervalle, laissant sur la route un enfant de 8 ans. Ça, c'est des situations qu'on voit régulièrement, tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle à une réaction et à faire que ce virus arrête de diffuser en ville. Et le seul moyen, c'est de limiter les contacts entre personnes et les contacts sociaux. C'est pas très long, on a besoin d'un effort encore de, on va dire, 4 à 5 semaines, et après, progressivement, on pourra relâcher si on a réussi à faire cet effort-là. Mais encore une fois, à votre question, de quoi nous avons besoin, nous, les soignants, je dirais que la première question, c'est de quoi ont besoin les familles et les patients qui sont victimes de cette maladie.
C'était le deuxième volet de ma question, pour tout vous dire. Moi, je voulais vous demander, là, votre équipe, qu'est-ce qui peut aller aussi pour mieux prendre en charge les patients, même si je n'ai aucun doute du dévouement et de la qualité des soins qui sont délivrés dans votre service. C'est pas ça la question. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que, on en parlera tout à l'heure avec une collègue infirmière, pour que des milliers de personnes ne quittent pas le métier aussi, parce que ils n'en peuvent plus. et bien sûr les familles, et bien sûr l'écoute des patients, et bien sûr le retour à la maison. C'est vrai qu'on a vu récemment dans un lycée de Seine-Saint-Denis, on disait 20 parents d'élèves sont décédés, 20 parents sur un lycée. C'est absolument épouvantable. Donc il faut faire face aussi à ce qu'a vécu la communauté, il faut faire parler ces personnes qui sont aussi dans le deuil pour qu'elles aient un visage, pour que toutes les personnes qui osent encore nier la réalité de cette situation se taisent, parce qu'on en a marre de les entendre. C'est une chose aussi qu'il faut répéter. Mais il faut aider les familles, mais il faut aussi aider les soignants, professeur.
Alors, tout à fait. Alors, pour aider les soignants, je vais être très, très clair. Je pense que les soignants, actuellement, en tout cas à très court terme, ce dont ils ont besoin, c'est un soutien de la population. Et je vous le dis tout de suite, on va être très, très clair là-dessus. L'année dernière, nous avons été soutenus, mais j'en ai même encore émouvant. J'en ai des frissons à y repenser. Actuellement, il faut être aussi objectif. Le soutien, il existe beaucoup moins parce que les gens sont fatigués, parce que les gens, ils n'ont plus envie d'entendre parler de ça. Et parce que, voilà, et ça se ressent, bien entendu, dans les services. C'est très simple. L'ambiance a beaucoup changé. On sent très, très bien que, voilà, il y a beaucoup moins de soutien. Et la deuxième chose, et ça, il faut le dire très clairement, il y a eu un soutien financier avec une prime Covid l'année dernière pour les soignants et en particulier pour les infirmiers et les infirmières. Et je pense qu'il faut d'ores et déjà que l'exécutif s'engage à ce qu'il y ait une deuxième prime cette année parce que les équipes, elles n'en peuvent plus, mais elles travaillent jour, nuit, et ils ne comptent plus leurs heures. Il faut les reconnaître. Et comme, vous voyez, la reconnaissance, on va dire, de la population, bah, c'est une chose, ça fait du bien, il n'y a pas de souci. Il y a aussi la reconnaissance financière. Il ne faut pas l'oublier, parce que ce sont des métiers qui sont peu payés. Hein. Un infirmier ou une infirmière, au début de sa carrière, il gagne 1 600 euros par mois, ce qui, pour la vie en Ile-de-France, représente un salaire relativement faible, et donc je pense qu'il faut qu'il soit reconnu et qu'il y ait une deuxième prime Covid 2021.
Merci beaucoup, professeur Stéphane Gaudry. On vous rend à vos patients du service de réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Vous souhaitiez réagir, professeur Grimaldi?
Non, c'est-à-dire que pour mobiliser les soignants, il faut qu'ils aient le sentiment d'avoir une perspective. Il y a les salaires où on est loin encore de la moyenne de l'OCDE, ce qui est un minimum. Bon. Et la prime, très bien, mais c'est d'abord les salaires pour que ce soit attractif. Et ensuite, il faut le sentiment que l'hôpital public est un modèle que l'on veut défendre, et pas simplement une prestation en plus parmi d'autres, hein, avec un Ségur qui a réglé le problème. Le président de la République a dit, pour la santé, nous avons réglé le problème par le Ségur. Bon, c'est pas vrai.
Le compte n'y est pas pour
C'est
vous.
Pas vrai, pas du tout, et c'est pas seulement qu'un compte financier. C'est est-ce que c'est un vrai service public où les équipes de terrain, ce sont elles qui sont à l'avant et les administratifs sont au service de ces équipes qui sont au service des patients. Un vrai service public.
Ce besoin de changement, on a les chiffres, même si les chiffres disent pas tout, mais il y a eu les fermetures de lits qui ont été très importantes au cours des 20 et 30 dernières années. Est-ce que c'est sur ce genre d'indicateur qu'on pourra juger?
Pas seulement, c'est qu'il faut que les lits soient au bon endroit. On a besoin des lits pour les urgences, on a besoin des lits pour coucher les gens qui arrivent aux urgences, qu'il n'y ait plus de brancards dans les urgences. On avait les brancards avant, on retrouvera les brancards. Bon, donc le problème, c'est quelle est la formation? Est-ce qu'on travaille en équipe ou est-ce que les infirmières changent de service d'un jour à l'autre? Formation express pour la réanimation. Alors, on va prendre que des volontaires, mais enfin, vous vous rendez compte que ça veut dire on déstructure et dans la durée, quand vous déstructurez, là, c'est paroxystique, mais c'est quotidien. C'est je travaille là, puis je travaille ailleurs. Donc, les gens, aujourd'hui, changent de service tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Vous ne formez pas des équipes. On a séparé les médecins et le reste du personnel soignant. Donc, il n'y a plus vraiment d'équipe. Je disais à ma collègue...
Ce qu'on a retrouvé, justement, l'année dernière.
Est-ce que tu réunis le service? Je disais, il y a un an, tu réunis le service? Elle dit, mais c'est qui le service? Bon, quand vous avez abîmé ça, que vous avez une logique, en gros, ce qui marche bien, c'est les interventions programmées, standardisées, la chirurgie ambulatoire, qui l'a stoppée pour l'épidémie, mais ce que font les cliniques privées. Mais l'hôpital, c'est tout le reste. Et là, ça dysfonctionne complètement. Et on a eu cette idée-là. En gros, on doit gérer l'hôpital comme une entreprise. Ben, ça ne marche pas. Alors, le président l'avait dit, mais c'est pas ça du tout qui se passe maintenant. On recommence comme avant.
On va voir le chantier, il faut le poursuivre. Professeur Grimaldi, vous restez avec nous. Juste après un titre de Bruno Mars, collaboration avec Anderson .Paak, Leave the Door Open.
Say, baby, what you doing? Where you at? Oh, I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake,
smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in this arms, I'ma leave the door open.
I'ma leave the
door open, girl.
I'ma leave the door open.
That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby.
Tell me that you're coming.
Priorité santé sur RFI, journée mondiale de la santé, l'hôpital face à la crise sanitaire en France, aujourd'hui et demain, toujours en compagnie du professeur André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Crise sanitaire, Ségur de la santé, les résultats de cette consultation. On a beaucoup entendu parler des pistes pour rendre certaines professions plus attractives. C'est vrai qu'on a manqué de bras. Il faut trouver des bras. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur Grimaldi, il y a eu des signaux positifs lancés où on en est vraiment loin? Et en quelque sorte, l'hémorragie non seulement de vocation mais de professionnel continue?
L'hémorragie s'accélère pour le moment. C'est-à-dire notamment, par exemple, les chirurgiens ne pourront pas rester à l'hôpital sans opérer et ils vont dire « bon, ben, je pars en clinique privée, en plus je fais ma spécialité, c'est au fond c'est mieux organisé, donc on va affaiblir l'hôpital ». Il faudrait aussi que les infirmières elles aient des profils de carrière, pour devenir infirmières spécialisées, soit dans des gestes techniques, comme les infirmières anesthésistes, soit dans le suivi des patients. On a un retard considérable, et que ce statut d'infirmière spécialisée soit rémunéré, qu'elle ait un profil de carrière. On fait pas la même chose à 30 ans, à 40 ans, quand on a 10 ans ou 15 ans. Alors du coup, ça vous crée une compétence. On parlait de formation express. En médecine, dans la complexité, c'est des années et des années. Donc il y a des infirmières qui ont des expériences de 5 ans, de 10 ans, c'est précieux. Vous savez qu'il y a un tiers des infirmières qui quittent leur métier dans les 5 ans qui suivent leur diplôme d'État. Et là, ça s'accélère. Alors après, on peut faire des grandes déclarations. On peut dire, on va recruter 15 000 personnes. Oui, mais il y a 7 500 postes vacants. À Bichat, on avait recruté 198 infirmières. Mais oui, il y en avait autant qui étaient partis.
Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une annonce, il faut retrancher les besoins qui étaient en...
Absolument. On dit, y compris sur l'organisation. Le ministre dit, liberté d'organisation. Chaque établissement s'organise comme il l'entend. Oui. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Ben donc on continue comme avant, avec des structures de gestion qui ont montré qu'elles servaient à rien face à la crise.
Parce que ce que vous nous expliquez, c'est que quand il y a eu la crise, ils se sont mis entre parenthèses et aujourd'hui, ils ont réinvesti le terrain.
Exactement. Je vous prends un exemple typique. On crée des pôles de gestion. Ces pôles sont hétérogènes. Il y en a à la Pitié où il y a la chirurgie, la néphrologie, la maternité. C'est quelle cohérence de ça? Alors c'est un pôle de gestion, mais le chef de pôle, c'est lui qui va décider où on met le personnel peut passer d'un endroit à l'autre, etc. Donc on est dans une espèce de chaos qui est...
Et c'est un médecin ce responsable ou c'est un médecin, un administratif, il a quel profil?
C'est un médecin, mais son pouvoir est limité. Au fond, il est co-gestionnaire de l'administration qui a vraiment le pouvoir. Et elle a d'autant plus le pouvoir qu'on n'a rien changé sur les modes de financement, qui continue à être une logique marchande de tarification à l'activité, avec une enveloppe que vous ne pouvez pas dépasser, qui est contrainte, un budget qui est limité, et donc quand vous le dépassez, on vous baisse les tarifs. Vous connaissez une entreprise qui fonctionne comme ça ? Lorsqu'elle augmente son activité, on lui baisse les tarifs. Alors on a économisé comme ça 8 milliards sur les hôpitaux, qu'on perd maintenant complètement. Donc tout ça... les gens n'y croient plus, quoi. Il y a trop de discours qui ne correspondent pas à la réalité.
Et qui se traduit par des chiffres. On va vous donner la parole. Sophie Michalet, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes infirmière au CHU de Grenoble, membre du collectif Interhôpitaux. Chiffres donnés par l'Ordre national des infirmiers. 10 000 infirmiers et aides-soignants ont quitté le métier depuis 2020. Est-ce que ces chiffres vous étonnent, Sophie Michalet ?
Non, pas du tout. Ils traduisent vraiment l'état d'esprit qu'il y avait avant la crise Covid. La crise Covid, elle a juste mis en exergue toutes les difficultés qui pouvaient se passer à l'hôpital public et d'une manière un peu plus générale sur le système de santé français. Donc elle a juste mis un coup de projecteur sur toutes ces difficultés que vivaient les soignants au quotidien, avec ce qui a déjà été dit par rapport aux services de réanimation, mais qu'on retrouve exactement dans tous les services, une perte de sens de notre travail, pas le temps de faire notre métier, on court dans tous les sens, on n'est pas présent pour les patients et les familles comme on devrait l'être, et du coup on perd sur notre qualité de travail, on perd sur le sens qu'on a sur notre métier, et donc effectivement on est épuisé, lassé de courir dans tous les sens, de pas avoir de temps, et donc on décide de quitter l'hôpital ou de quitter notre métier d'infirmier qu'on aime pourtant profondément.
Et pourtant, vous tenez, Sophie Michalet. Vous avez vu quoi, par exemple, si vous voulez donner des choses à imaginer à nos auditeurs en termes de dégradation des conditions de travail par rapport à vos débuts, personnellement ?
Personnellement, c'est beaucoup une perte de temps. C'est-à-dire que les patients ont beaucoup changé. Les patients, comme la population générale, vieillit avec des pathologies qui sont de plus en plus chroniques, multipathologiques parfois. Donc on voit que cette population de patients, elle a changé. Et moi, ça fait 9 ans que je suis infirmière et en 9 ans, on voit que voilà, les patients sont, comme on l'a dit, un petit peu vulgairement plus lourds dans les services. Mais au-delà de ça, les soignants n'ont pas évolué. C'est-à-dire qu'on reste sur le même ratio de patients et de soignants d'il y a 20 ans, alors que les soins se sont aggravés, sont plus graves, nous prennent plus de temps, les patients demandent plus de temps, et ce temps, on l'a pas. Donc là, la dégradation de travail, elle est là, c'est-à-dire qu'on est le même effectif pour des soins plus compliqués, plus complexes, qui nous demandent plus de temps. Et c'est ça qui est la difficulté, et c'est ça la dégradation de notre condition de travail, c'est le temps de travail qu'on n'a plus comme on avait auparavant.
Sur l'année écoulée, finalement, votre profession infirmière, c'est celle qui a eu le coup de pouce, on va dire, des autorités, du gouvernement, avec ces 181 euros, si je ne me trompe pas, qui ont été cette augmentation qui a été décidée. Comment ça a été perçu ? Est-ce que ça a été c'est bienvenu, c'est tout ? Et après, qu'est-ce que c'était la réaction ?
Forcément, c'est bienvenu. On peut pas se dire, dans une crise sociale comme on la vit actuellement, on peut pas se dire que 180 euros, c'est rien. C'est, forcément, c'est quelque chose. Mais ça reste bien moindre par rapport à ce qui avait été demandé. La crise Covid, comme je disais, elle a mis en exergue toutes les difficultés. Il y a 2 ans, ça a commencé par le collectif Interurgence qui demandait une revalorisation salariale de 300 euros pour tous les professionnels. Parce que là, effectivement, on met en avant les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, mais c'est vraiment tous les professionnels de l'hôpital qui sont en difficulté, il manque du personnel de partout, il manque des secrétaires, il manque des brancardiers, il manque des rééducateurs. Et le Ségur, il a juste mis effectivement ces 183 euros. Pas pour tous les professionnels, parce que même sur l'hôpital public, lorsqu'il y a un service de médico-social, les soignants, ils n'ont pas eu ces 183 euros. Donc il y a aussi une distorsion selon les endroits où on travaille à l'hôpital, si on a été proche ou pas des patients Covid. Professeur Gaudry parlait d'une prime. Alors oui, les primes, c'est bien, ça booste un petit peu sur le moment, mais c'est pas pérenne. Les conditions de vie, elles se dégradent, les charges courantes au quotidien de chaque personne augmentent et les salaires des populations générales augmentent et les salaires des populations des soignants diminuent. Donc
On est encore au corps de la crise, ces revendications, elles passent, on en discute avec les instances ou aujourd'hui c'est complètement sous le couvercle ?
Non, c'est complètement sous le couvercle. Pour eux, pour le gouvernement, le Ségur a apporté les réponses que les professionnels demandaient, alors que ce n'est pas le cas. On parlait effectivement d'une revalorisation salariale, mais on parlait surtout des conditions de travail. On parlait beaucoup du ratio personnel-soignant et on n'en a absolument pas parlé. C'est important. Il y a des ratios qui sont nécessaires en réanimation, mais il y a des ratios patient-personnel qui sont aussi nécessaires dans d'autres services. Moi, dans mon service, quand on travaille d'après-midi, on est une seule infirmière pour 20 patients. Ça veut dire que le soir, pour distribuer les médicaments, j'ai à peine 6 minutes par patient. Ça, c'est pas tenable dans un service où c'est des patients qui ont des troubles du langage, des troubles de la déglutition, des troubles de la marche, enfin, qui sont complètement dépendants.
On se retrouve parfois dans des situations où on a l'impression d'être maltraitant, alors que finalement, on n'a pas le choix.
Complètement. On est maltraitant envers nos patients et c'est pas notre volonté, c'est ce qu'on en dit la maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire que c'est l'organisation et l'institution qui nous imposent cette maltraitance. Parce qu'encore une fois, on court dans tous les sens, on n'a pas le temps de s'asseoir, de discuter avec nos patients. On est constamment en train de distribuer des médicaments, alors que si on prenait ne serait-ce que 10 minutes pour parler avec le patient, ben on se rendrait compte qu'il n'a pas tellement mal. En fait, ce qu'il a simplement, c'est besoin d'une présence d'un soignant et qu'on l'accompagne, tout comme on accompagne les familles.
Et pourtant, les infirmières conservent toujours cette image justement du soin, du temps, de la disponibilité. Moi, j'aimerais aussi, pour cette dernière question, que vous reflétiez quelque chose d'essentiel pour que les gens comprennent bien. C'est l'épuisement au bout du compte. Jusqu'où on peut tenir? Parce que c'est bien d'avoir des forces, c'est bien de se motiver aussi entre collègues, c'est bien de se dévouer pour le patient, mais il y a un moment donné où parfois on a envie de dire stop.
Oui, on a envie de dire stop et il y en a qui le font. Hein, quand on voit le nombre de vagues de démissions qu'il y a eu, les gens tiennent plus. On tient plus suffisamment, on n'a pas assez de retours positifs sur tout justement ce qu'on donne entre guillemets, à l'hôpital, c'est-à-dire que on a l'impression effectivement de donner beaucoup pour les patients, de donner beaucoup pour l'organisation du service. Et derrière, on n'a pas tellement de retour, on n'a pas de reconnaissance, il n'y a pas de discussion avec les soignants sur quel projet on porte réellement pour l'hôpital. Et ça, c'est frustrant. Et effectivement, on repart de notre journée de travail frustré, de pas avoir pu faire notre travail correctement. Et on est épuisé parce que on enchaîne les journées en se disant qu'on fait du mauvais boulot, ou en tout cas pas le boulot tel qu'on l'idéalise et tel qu'on le voudrait. Et ça fatigue d'autant plus.
Merci beaucoup et nos encouragements, Sophie Michel. Et je rappelle que vous êtes infirmière au CHU de Grenoble, membre du collectif Interhôpitaux. Ce qu'on entend, professeur Grimaldi, c'est que ce qu'il faudrait, c'est peut-être s'arrêter, regarder ce qui se passe et réfléchir, parce que peut-être que pour le grand public, tout est acquis, cet hôpital, il sera toujours là. Les infirmières, elles seront toujours là pour nous écouter. Ce qu'on entend, c'est que c'est pas forcément évident.
Non, c'est pas évident. Les choses peuvent se dégrader très vite. Et puis, on dira, vous allez dans le privé. Et puis là, vous verrez des dépassements d'honoraires. Vous verrez que certaines pathologies, c'est pas tellement pour le privé. Donc, vous savez, en 2020, 80% des patients Covid ont été pris en charge à l'hôpital. Patients graves. S'il n'y a plus d'hôpital, c'est quoi le plan B? C'est quoi l'activité privée est adaptée aux gestes techniques standardisés que les cliniques font et font bien. La maladie chronique, les polypathologies, les maladies infectieuses graves, ça relève d'un service public. Et ça peut pas être mis sur le même plan. Donc là encore, on va avoir des élections présidentielles bientôt. Il faudra que la santé, c'est parce que c'est la population qui doit dire quel hôpital elle veut.
Qui était totalement occulté de la précédente campagne électorale. D'ailleurs, professeur Grimaldi, en conclusion, dans votre réflexion, vous dites que justement au moment de la création de la sécurité sociale, c'était après des grandes crises, que finalement ce sont sur ces grandes crises qu'on a bâti la rénovation de la santé en France. Est-ce que vous y croyez pour aujourd'hui?
Écoutez, vous savez, quand une terre a été brûlée, il peut repousser des roses après, ce qu'on appelle la résilience. Mais il pousse parfois des ronces. Donc, il y a un danger là. Est-ce qu'on fera un grand bond vers l'avant ou est-ce que on va reculer dans les services publics? C'est ça la question qui devrait nous habiter lors de l'élection présidentielle.
Est-ce que vous attendez des échéances, vous attendez des rendez-vous ou, comme le disait tout à l'heure l'infirmière Sophie Michalet, si tout est en stand-by, c'est mort pour l'instant?
C'est beaucoup l'opinion publique. Si l'opinion publique pense que cet hôpital, c'est un bien pour elle, qu'elle doit le défendre, comme la sécurité sociale, alors les politiques suivront. Si l'opinion publique pense qu'il est temps de penser à autre chose, après tout, je vais bien, on verra, ça arrivera un jour. Si elle délaisse ça, on fera comme avant, quoi.
C'est au public de s'en
emparer. Les affaires d'abord.
Merci beaucoup, professeur André Grimaldi. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Priorité santé sur RFI.
Là aussi, une réforme attendue de longue date dans ce même secteur de la santé, celui des études de médecine. Changement inclus dans la loi de 2018, Ma Santé 2022, c'est le nom de la loi. La fin annoncée du numerus clausus, hein, très attendu à terme pour renforcer l'offre médicale, pour en finir avec la logique de la première année couperet. Beaucoup d'attentes et pas mal de déceptions. C'est ce qu'on va voir avec vous, docteur Jérôme Marty. Bonjour.
Bonjour.
Médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre, syndicat. Je disais grosse déception. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui au sujet de cette réforme du numerus clausus? Hein, on va dire c'est un nombre bloqué de passages en deuxième année, un nombre bloqué surtout de postes, d'ouverture de postes de médecins.
Le constat, il est extrêmement sévère et il est dramatique. Il est dramatique pour ceux qui le vivent, c'est-à-dire les étudiants qui se sont inscrits en première année de médecine cette année et qui se retrouvent dans une inégalité de chance extrêmement importante et face à un examen qui a remplacé le concours mais qui en fait est resté un concours qui est beaucoup plus difficile pour eux que ce qu'ont vécu tous les autres avant eux. Je m'explique. On avait avant un concours de médecine, vous le savez, dans lequel on s'inscrivait, on pouvait redoubler. Et puis, vous aviez un écrémage qui était très important puisque vous aviez en gros entre 10 et 15% de gens qui étaient pris. Là, on a fait une réforme qui est ni fait ni à faire où on nous dit que on ne peut pas redoubler, interdiction de redoublement. Si vous manquez votre fac, vous devez partir dans une autre filière et ensuite vous pouvez revenir en médecine au bout de 3 ans de cette autre filière par une passerelle. Vous avez actuellement donc 3 types d'étudiants en première année. Vous avez les nouveaux inscrits qui sont dans cette réforme PASS. Vous avez des étudiants qui rentrent déjà passerelliens par une autre fac. Et vous avez les anciens, en quelque sorte, les redoublants de la précédente réforme. Mmh. De la précédente...
promotion.
Voilà, de la précédente promotion. Les redoublants de la précédente promotion prennent 2/3 des postes. Donc, il ne reste plus qu'un tiers des postes aux gens qui sont nouvellement inscrits et qui rentrent en fac de médecine. Et en plus, on leur demande à eux de préparer et présenter, en quelque sorte, une licence dans une autre faculté, de façon à pouvoir s'orienter s'il manque le concours. Donc, ils bossent non seulement l'examen ou le concours de médecine, qui est extrêmement difficile, mais ils doivent présenter à côté de ça de l'économie, du droit, des maths, que sais-je.
Il nous reste 30 secondes, docteur Marty. J'aimerais juste vous demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Est-ce que vous avez eu des réactions d'étudiants, justement, face à cette situation assez incompréhensible? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut sauver les premières années de cette première promotion et il faut augmenter le nombre de places. Parce qu'en plus, ils se rendent compte que les facs qu'ils présentent n'ont pas les places pour les accueillir. Souvent, en biologie ou autre, on leur dit « Mais non, mais nous, on n'a pas de place pour vous ». Donc, ça n'a même pas été réfléchi, cette histoire. Donc, on augmente le nombre de places, on leur permet d'accéder à la deuxième année, ou alors on leur permet de redoubler.
Vous avez eu des réponses, justement, face à votre coup de colère?
Réponse, Madame Vidal est complètement sourde aux demandes des associations qui s'en occupent, et on va avoir des drames chez ses étudiants. Donc, il serait bien de s'en préoccuper, parce que si jamais on a le moindre drame, nous, l'UFML, on la poursuivra.
Merci beaucoup pour ces explications, merci beaucoup. Très bonne journée à vous, docteur Jérôme Marty. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Didier Bleu et Laurence Snow. Demain dans Priorité Santé, émission spéciale Jeunes auditeurs, mes parents n'approuvent pas mes projets. Que dois-je faire? À demain, d'ici là, portez-vous bien et surtout lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sono Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards de voisins, c'est...